comme les brillants entrepreneurs, épargnez chez Suno Assurance pour garantir le financement de vos projets. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. En matière de santé, certaines pathologies provoquent des tensions, des polémiques qui poussent à nous interroger sur notre rapport à la médecine. La maladie de Lyme est celle-ci, une bactérie transmise par l'éthique qui peut provoquer une infection persistante, manifestations dermatologiques précoces, puis d'autres signes plus tardifs tels que des douleurs articulaires persistante, une maladie bien réelle, un agent pathogène bien réel, la Borrelia, un traitement préconisé à base notamment d'antibiotiques. Mais cette maladie de Lyme a depuis longtemps quitté les seules consultations des services d'infectiologie pour rejoindre l'arène de la polémique, relayée par des associations, des médias et certains praticiens. Des débats parfois passionnés, laissant peu de place à l'écoute et à la preuve scientifique qui dénonce pêle-mêle tests contradictoires, expertises contestables et prise en charge inadaptée. Cette polémique constitue une illustration de la défiance actuelle à l'encontre de la médecine que développe une partie de l'opinion, une fronde assez paradoxale, car à force de chercher une réponse absolue et sans ambiguïté, ces patients en colère refusent d'entendre que la science a, dans certains cas, certaines limites. La maladie de Lyme, au-delà de la polémique, c'est le titre du livre que vous venez de signer. Professeur Ivansman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des maladies infectieuses et tropicales au CHRU de Strasbourg et votre livre est publié aux éditions Solar. Maladie de Lyme, quel ressenti ? Quel impact sur le quotidien ? On posera la question tout à l'heure à Gilles Schweitzer, qui est atteint de cette maladie. Et puis nous retrouverons le docteur Emmanuel Nakune-Yandoko, directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Bangui, en République centrafricaine, qui nous livrera son éclairage sur cette borréliose de Lyme. Vos témoignages, bien sûr, on les attend sur la page Facebook de l'émission. Et puis vos appels au 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Ivansman, le titre de votre ouvrage, donc deux termes côte à côte, Lyme et polémique. Est-ce que le médecin hospitalier que vous êtes est le témoin de cette polémique lors des consultations ? Est-ce que vous recevez des personnes en colère ?
Alors effectivement, disons, l'objet du livre, c'était d'aller un petit peu au-delà de cette polémique. Et si on a eu l'idée d'écrire cet ouvrage, c'est en particulier parce qu'on a vu ces dernières années de plus en plus de patients qui étaient, je vais pas dire en colère, mais qui étaient surtout angoissés et qui se posent beaucoup de questions et qui ont du mal à avoir des réponses de la part de la médecine. Et c'est un petit peu pour répondre un petit peu à cette angoisse qui est surtout liée à la polémique et à la confusion qui règne autour de certaines informations qui me semblait utile de pouvoir mettre à disposition des gens l'état des connaissances actuelles, en particulier sur le plan scientifique. C'est un petit peu l'objet de mon livre.
On va revenir dans un deuxième temps sur la polémique. Mais d'abord, j'ai lu une expression dans la presse qui m'a un petit peu étonnée. Pro et anti-Lyme. Comment est-ce qu'on est pro et anti une maladie ? Ça paraît étonnant comme conception d'une approche. On parle d'infection, on parle de bactéries. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je dois avouer que c'est pas un terme que nous avons,
disons. On est habitué sur des débats d'idées. On voit pro-vie, anti-vie aux États-Unis, cette terminologie sur l'avortement. On est habitué, mais on est dans la morale, on est dans l'éthique. Là, on est dans l'infectieux.
Non, c'est vrai que c'est un terme qu'on ne comprend pas tout à fait nous-mêmes, parce que finalement, la maladie de Lyme, on la connaît depuis pas mal de temps. On s'en occupe, beaucoup de médecins s'en occupent, en particulier les infectiologues. On la reconnaît bien depuis maintenant quelques dizaines d'années. C'est vrai que c'est une maladie relativement récente dans l'histoire de la médecine. Mais il n'y a pas lieu d'être pro ou anti une maladie parce que la maladie, elle est là, elle est présente. Tout le monde s'accorde à dire ça. Elle est même assez fréquente, en particulier en France. Elle peut donner des vrais symptômes, des maladies parfois handicapantes. Donc tout le monde s'accorde à ça. Donc c'est vrai que le terme pro et anti maladie de Lyme, à mon avis, n'est pas du tout adapté.
Et dans les gens qui sont engagés dans ce débat, professeur Hansman, je vous pose la question carrément, ils vous rangent plutôt dans les anti-Lyme alors que vous êtes infectiologue. C'est quand même quelque chose d'assez paradoxal.
Oui, c'est tout à fait paradoxal. Puisque finalement la maladie de Lyme, on s'en occupe depuis maintenant personnellement plus de 20 ans. On voit des patients très souvent, on a plus de 500 patients qui viennent tous les ans pour nous rencontrer autour de cette maladie de Lyme. Il y a des recherches également qui sont faites, on participe à la recherche aussi bien clinique que fondamentale. Donc On pourrait faire plus, bien sûr, on peut toujours faire plus sur une maladie, surtout quand elle est fréquente et quand elle pose des problèmes. Mais on s'en occupe autant qu'on peut, et c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à comprendre, et je pense que plus autour du anti ou pro maladie de Lyme, c'est anti certaines idées sur la maladie de Lyme ou pro certaines idées sur la maladie de Lyme.
C'est plus en termes d'approche. Alors, on va revenir donc à cette polémique plus tard, mais d'abord on va commencer par le début, hein, le tableau de cette maladie. Justement, comment on l'attrape, tout simplement, la tique, il faut en parler, bien évidemment. Et au bout de combien de temps est-ce que l'on sait qu'éventuellement, on a contracté l'infection?
Alors effectivement, cette maladie s'attrape par une piqûre de tique qui transmet Borrelia, donc l'agent de la maladie de Lyme, qui est une bactérie. Une fois qu'elle, donc les tiques font des repas, donc elles se nourrissent de sang de
D'ailleurs, mammifères. On dit piqûre ou morsure?
En général, on dit plutôt piqûre. Alors, c'est très débattu.
On peut. Parce qu'une fois qu'elle est accrochée, on a envie de dire qu'on est plutôt mordu, hein.
Oui, mais disons, il n'y a pas vraiment de bouche, il n'y a pas de dents. D'accord. C'est plutôt ce qu'on appelle un rostre. Donc, ça ressemble peut-être plus à une piqûre. Mais bon, voilà, ça, c'est un point de détail.
Et est-ce que toutes les races de tiques transmettent Lyme?
Non. Alors, on parle d'espèces de tiques. Il n'y a que certaines espèces de tiques qui transmettent. En Europe, c'est Ixodes ricinus. Il y a quelques autres espèces, Ixodes persicatus, par exemple, aux États-Unis qui transmettent, mais il y a beaucoup d'autres tiques qui ne transmettent pas cette maladie, qui peuvent transmettre parfois d'autres maladies ou aucune maladie. Donc c'est vraiment une tique bien spécifique qui transmet.
Alors une fois qu'on a été piqué par cette tique, il peut y avoir un symptôme précoce et visible sur la peau. Vous pouvez nous le décrire ?
Oui, alors effectivement, le premier symptôme, c'est ce qu'on appelle l'érythème migrant. C'est donc une rougeur qui est d'abord centrée sur la piqûre de tique et qui va grandir de façon centrifuge, qui va prendre un aspect un petit peu en cocarde ou un aspect annulaire avec une périphérie qui est un petit peu plus rouge que le centre. Et au fur et à mesure de l'agrandissement de cette lésion, le centre va reprendre un aspect normal. Et c'est une lésion qui ne fait pas mal, qui ne démange pas et donc qui peut assez facilement passer inaperçue.
Est-ce qu'elle chauffe ?
Non, alors il y a très très peu de symptômes. Disons, c'est ça un petit peu le danger, c'est-à-dire que les gens ne sont pas inquiets parce qu'ils sont pas gênés par cette lésion et ils ne vont pas forcément voir leur médecin à ce stade-là, ce qui est évidemment une erreur parce que c'est à ce stade-là qu'il faut aller voir le plus rapidement possible un médecin.
Et cet érythème migrant, il apparaît quand la tique s'est décrochée, parce qu'on sait que la tique, elle peut rester 24-48 heures, le temps qu'elle se gorge de sang et d'ailleurs qu'elle grossisse de façon spectaculaire. On le voit plusieurs jours après, c'est quoi au niveau du délai?
C'est ça, alors le repas de la tique dure plusieurs jours, jusqu'à 7 jours, pour qu'elle puisse avoir un repas complet. Et par contre, la transmission de la bactérie, elle n'est pas immédiate. De temps à autre, on a une petite rougeur au moment de la piqûre de tique, ça c'est plus des rougeurs qui sont liées aux produits qui sont dans la salive. Ça, c'est pas la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, elle survient, il y a au moins un délai de 24-48 heures, voire plus souvent plusieurs jours, jusqu'à 4 semaines après la piqûre de tique.
Ça veut dire que quand on a cet érythème, ça y est, on a la maladie de Lyme?
Quand on a l'érythème, on est sûr qu'il y a une maladie de Lyme. On est sûr qu'il y a eu transmission de la bactérie, effectivement. C'est, disons, le simple fait de constater l'érythème est un moyen de faire le diagnostic.
On va donner dans quelques secondes la parole à un patient. Juste une chose, est-ce que vous avez des données épidémiologiques au sujet de cette fameuse maladie? Donc, on va le dire, hein, une bactérie, la Borrelia, qui donne borreliose ou maladie de Lyme. Est-ce qu'on a des chiffres pour la France?
Oui, effectivement. Donc, cette maladie fait l'objet d'une surveillance, différents moyens de surveillance, mais il y a une surveillance qui se fait depuis plusieurs années par l'intermédiaire du réseau Sentinelle. Donc, c'est un réseau de médecins généralistes qui déclare un certain nombre de maladies, par exemple la grippe, mais qui déclare également des maladies de Lyme. Et ça permet, disons, d'avoir une évolution de l'épidémiologie de cette maladie en France. Donc, ça permet de voir s'il y a une augmentation ou diminution du nombre de cas. Par exemple, en 2016, il y a eu une petite augmentation du nombre de cas, et puis il y a de nouveau une petite diminution en 2017. On n'a pas encore les chiffres 2018, mais on voit qu'il y a des petites variations d'une année sur l'autre qui sont peut-être également du fait, des aléas climatique, hein, puisqu'on sait que les tiques vont être actives surtout quand il fait chaud et humide. Voilà.
Oui, mais je vous pose quand même la question, combien de personnes?
Alors, on est autour de 40 à 50 000 personnes par an en France, ce qui représente beaucoup de personnes.
Beaucoup de personnes. Alors, justement, on va parler de la maladie avec vous. Gilles Schweitzer, bonjour.
Bonjour.
Témoignage pour comprendre comment la maladie de Lyme peut se manifester. Alors, pour vous, Gilles Schweitzer, depuis quand le diagnostic a-t-il été posé?
Alors, pour le diagnostic, il a été posé chez moi à la mi-juillet de cette année. Alors que les premiers symptômes sont apparus à la fin du mois de mai.
Alors justement, du côté de ces premiers signes, quel premier symptôme vous a alerté?
Alors, pour en ce qui me concerne, les symptômes ont été un gonflement du genou qui commençait à devenir douloureux et qui m'empêchait de faire du sport, qui m'empêchait pas de vivre une vie normale au départ, mais qui était gênant dans ma pratique sportive.
Alors, on vient de décrire avec le professeur Yves Hansmann le fameux érythème migrant, cette auréole juste après la morsure. Ça veut dire que vous, Gilles Schweitzer, vous êtes passé à côté.
C'est ça, oui. En fait, moi, je parlais de ma pratique sportive qui m'amène à être pas mal en forêt. Et j'ai régulièrement des tiques que j'arrive à enlever, mais il n'y a pas eu d'érythème migrant en ce qui me concerne.
Mais en tout cas, vous aviez la certitude d'avoir été directement en contact avec ces petites bêtes.
Oui, c'est ça, oui. J'en ai régulièrement que j'enlève moi-même. Et voilà.
Alors, il y a eu plusieurs pistes, justement, au niveau de ce genou, on va dire des choses plus traumatiques qui ont été explorées. Comment vous en êtes arrivé à vous diriger peut-être vers un service d'infectiologie? Est-ce que ce sont des médecins qui vous ont orienté? Est-ce que c'est vous-même qui avez eu cette curiosité?
Non, en fait, dans mon cas, c'était un chirurgien qui, après les différents examens que j'ai pu faire, IRM, radio et échographie, qui a fait une ponction du liquide articulaire et à ce moment-là, il a vu que le souci était inflammatoire et il a fait ensuite il m'a fait faire des analyses sanguines pour voir d'où ça pouvait venir, dont la sérologie de Lyme qui l'a demandé aussi. Et la suspicion de la maladie de Lyme est apparue à ce moment-là au niveau des résultats de cette première prise de sang au début juillet, quoi.
Professeur Hansmann, je me tourne vers vous. Ça veut dire que si ce médecin n'avait pas eu en tête Lyme, Gilles Schweitzer serait peut-être encore aujourd'hui en train de souffrir, en train de chercher ce qu'il a.
Ah oui, c'est vrai, il faut y penser pour arriver à faire le diagnostic. Donc il faut à certains moments, en fonction des symptômes cliniques, évoquer cette maladie-là, surtout si les symptômes sont assez évocateurs, quand il y a par exemple des douleurs articulaires, et surtout, comme Monsieur Schweitzer, ce qu'on appelle une arthrite, donc une inflammation d'une articulation.
Est-ce qu'il y a un test particulier, Gilles Schweitzer, qui a confirmé votre diagnostic?
Alors, en fait, comme la prise de sang, il y avait une suspicion de la maladie de Lyme, j'ai été envoyé par mon médecin traitant chez un rhumatologue qui a fait une nouvelle ponction, qui a cherché la présence de Borrelia précisément dans le liquide articulaire.
Et alors ensuite, du côté du traitement, comment s'est organisée votre prise en charge?
Bah, une fois que le diagnostic a été posé, j'ai démarré un traitement antibiotique Péros, donc la doxycycline, qui dans mon cas n'a pas fonctionné. En fait, la situation a continué à s'aggraver avec ce traitement. Et j'en étais arrivé à un point où je pouvais plus me déplacer, j'arrivais plus à marcher. Et à ce moment-là, j'ai été hospitalisé au service du professeur Hansmann au centre hospitalier de Strasbourg, où là-bas, une nouvelle batterie d'examens a été faite pour confirmer Lyme et pour écarter d'autres hypothèses. Et j'ai commencé un autre traitement antibiotique par voie intraveineuse cette fois-ci, qui a duré 4 semaines, celui-là.
Des traitements, professeur Hansmann, sur la longue durée hein, pour des antibiotiques. C'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué quand on est en médecine de ville. On nous donne des antibiotiques 4, 5, 6, 8 jours. Sur une aussi longue période, qu'est-ce que ça fait sur l'organisme quand on prend des antibiothérapies prolongées de cette façon?
Bon, là, les antibiothérapies ont les effets secondaires connus, hein, en particulier sur la flore digestive, ce qu'on appelle le microbiote digestif, donc avec des troubles gastriques ou des problèmes de transit. Maintenant, ce sont des antibiotiques relativement bien tolérés qu'on utilise pour la maladie de Lyme. Donc, même sur des durées de quelques semaines, en général, on a relativement peu d'effets secondaires.
Et justement, chez Monsieur Schweitzer, comment se fait-il que le traitement de première ligne n'ait pas fonctionné et qu'il ait fallu en venir à ce traitement antibiotique par intraveineuse?
Il y avait une atteinte très inflammatoire au niveau du genou. Donc ensuite, on sait que dans certaines situations, surtout quand il y a cette atteinte très inflammatoire, les traitements peuvent prendre du temps à être efficaces. C'est-à-dire que sur des traitements qui sont administrés pendant effectivement 3 à 4 semaines en général, c'est la durée standard qu'on utilise pour des maladies de Lyme disséminées, ce qui est le cas quand il y a une atteinte articulaire. L'amélioration des symptômes cliniques est parfois assez longue à obtenir, plusieurs semaines, voire même un petit peu plus. Donc il faut du temps, il faut être un petit peu patient pour voir l'amélioration.
Et est-ce qu'on refait fait un test après, professeur Hansmann, pour voir si la borrélia est toujours là. Est-ce qu'elle disparaît de l'organisme une fois qu'on a été traité par antibiotiques?
Oui, alors effectivement, elle disparaît. Donc, par exemple, dans la situation de M. Schweizer, effectivement, on a été amené à faire d'autres tests, d'autres analyses, en particulier au niveau de son genou, qui ont permis effectivement de constater la disparition de la bactérie après le traitement antibiotique.
Est-ce que ça veut dire qu'il est guéri?
Alors, ça veut dire... Nous pensons qu'il est guéri, effectivement. Maintenant, on est à quelques mois de recul. On va attendre un petit peu parce que je crois qu'il y a encore un petit peu des symptômes. Je le revois en consultation dans quelques jours. Mais disons, il faut vraiment du recul. Il faut quelques mois. La plupart d'ailleurs des études maintenant pour évaluer par exemple l'efficacité d'un traitement recommandent qu'il faut un recul de 6 mois avant de dire si le traitement est efficace ou pas.
Gilles Schweizer, qu'est-ce que la maladie a changé et change encore aujourd'hui dans votre vie de tous les jours?
Après, c'était une période qui était pas évidente au niveau personnel, au niveau familial. Où c'est vrai que je prends l'exemple de mes enfants. J'ai pas pu jouer au ballon avec eux depuis le mois de mai. C'est des choses qui sont quand même assez handicapantes dans ma vie de tous les jours. Au niveau professionnel également, j'ai été en arrêt de travail durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Là, j'ai repris le travail il y a 15 jours.
Vous ressentez encore une fatigue générale ou c'est quelque chose qui ne vous avait pas concerné? Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui vous avez encore des symptômes ou vous auriez plutôt des séquelles? C'est-à-dire que c'est le reste de tout ce traitement, le reste de toute cette épreuve que vous avez justement à pas oublier parce qu'on n'oublie pas, mais à faire passer?
Là aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment je vois le bout du tunnel parce que je reprends peu à peu une vie normale. Comme je disais tout à l'heure, j'ai repris le travail il y a 15 jours. J'arrive à une rééducation au niveau de mon genou, donc je retrouve ma mobilité d'avant petit à petit. Et voilà, après les choses se font vraiment très doucement quand même.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Gilles Schweizer, professeur Yves Hansmann. Est-ce qu'on a justement l'impression qu'on sous-diagnostique Lyme aujourd'hui ou qu'on le surdiagnostique? Je reviens justement à ces chiffres que vous donniez tout à l'heure, plus de 50 000 personnes concernées et justement la complexité d'aboutir à ce diagnostic. Dans le cas de Gilles Schweizer, là vous le dites, c'est un Lyme, on va dire, clair, c'est net, c'est établi, il se soigne, il va mieux, donc c'est vraiment la maladie dans son tableau, on va dire, le plus simple pour vous, infectiologue. Mais il y a des cas pour qui c'est beaucoup plus compliqué, pourquoi?
Vous avez raison, l'un des problèmes, en particulier l'un des problèmes polémiques autour de la maladie de Lyme, c'est le diagnostic. C'est-à-dire que comment faire pour savoir s'il y a cette maladie ou non. C'est un problème qui est pas tout à fait simple, mais comme assez souvent en médecine, c'est pas la seule situation. Et pour établir un diagnostic en médecine, il y a une démarche, qui est une démarche assez standard, qu'on va utiliser dans d'autres maladies également, où on prend un certain nombre de critères, en particulier les symptômes cliniques. Et quand ces symptômes sont pas suffisants, on va être amené à faire des tests, des examens biologiques.
Qui fait que d'ailleurs que pour certaines maladies, professeur Hansmann, on dit suspicion 2 et non diagnostic 2, parce qu'il y a un certain nombre de symptômes qui se retrouvent, pas forcément tous, en tout cas, c'est pas comme une tuberculose où on va avoir le bacille et là on sait que c'est ça.
Oui, effectivement. Alors même dans la tuberculose, parfois on a des incertitudes aussi.
C'est pas simplement avec
ça peut arriver aussi.
Une prise de sang, c'est pas forcément suffisant.
Ça peut être simplement sur une radio des poumons sans qu'il y ait de confirmation. Donc c'est vrai qu'en médecine, c'est des choses qui sont relativement banales d'avoir un petit peu, je veux pas dire un doute, mais de faire ce qu'on appelle des hypothèses sans qu'elles soient parfaitement confirmées. Donc on a un petit peu l'habitude de gérer cette situation-là. Maintenant, pour la maladie de Lyme, c'est vrai qu'il y a une grosse polémique et beaucoup de questions ou d'interrogations sur la validité des examen biologique.
Avec aussi des questions qui sont peut-être liées à ce qu'on a dit tout à l'heure. Certains ne repèrent pas l'érythème migrant. Ensuite, on peut dire que la maladie se met en sommeil, redevient passive, elle se développe dans l'organisme pour se réveiller. Il y a toute cette période de latence qui fait peut-être qu'après, on va avoir du mal à cibler, surtout compte tenu de la multiplicité des symptômes, parce qu'on peut en faire la liste. C'est absolument effarant. Ça dépend des personnes, ça dépend des cas, mais il peut y avoir de très, très nombreux symptômes. Est-ce que vous pouvez justement nous en donner quelques-uns?
Alors, la liste des symptômes, c'est vrai qu'en médecine, on aime bien se baser d'abord sur les symptômes. Il y a quand même une liste pas si importante que ça pour la maladie de Lyme, contrairement à ce qu'on peut lire de temps à autre. C'est vrai qu'on va circuler, disons, des listes de symptômes très très variables, mais en médecine, on va plus s'attacher à des symptômes qui sont très évocateurs, spécifiques, comme on dit, d'une maladie. C'est comme ça qu'on raisonne. Et c'est vrai que, par exemple, pour les douleurs articulaires, on vient d'en parler autour de l'histoire de M. Schweitzer, ce sont plutôt les signes inflammatoires, donc ce qu'on appelle l'arthrite. Donc une articulation chaude, gonflée, douloureuse, ce sont plutôt les grosses articulations comme le genou. Mais il y a également des signes neurologiques, donc c'est des inflammations au niveau des racines nerveuses, donc ça se manifeste en général par des sensations de fourmillement dans un bras ou dans un membre inférieur.
C'est plus des douleurs. D'accord.
C'est plus des sensations très désagréables en général. Il peut y avoir des atteintes motrices, donc des paralysies, comme dans la paralysie faciale, qui est une des formes les plus connues de la maladie de Lyme. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de symptômes. Certains sont plus spécifiques que d'autres de la maladie de Lyme. Je reviens aux douleurs articulaires. Quelqu'un qui a une douleur dans une articulation, ça peut être lié à toutes sortes de choses. Ça peut être de l'arthrose, ça peut être simplement parce qu'il y a un traumatisme d'articulation. Ça ne veut pas dire que toute douleur articulaire est en rapport avec une maladie de Lyme. Et ça, c'est un point qui est important. Et c'est vraiment le rôle du médecin d'arriver à faire la part des choses entre un symptôme qui peut ressembler à une maladie de Lyme et un symptôme qui est vraiment évocateur d'une maladie de Lyme. Et ça, c'est vraiment le rôle du médecin. Et là, nous avons, disons, quand même des critères relativement clairs qui permettent de faire la part des choses et qui permettent d'évoquer ce diagnostic.
Alors, s'il n'existe pas de syndrome persistant polymorphe, il y a toute une question, justement, sur cette terminologie, sur la chronicité de la maladie de Lyme. Il y a eu un avis, ces derniers mois, de la Haute Autorité de Santé, qui établit, justement, la réalité, hein, officielle, reconnaissance de cette chronicité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? Parce que, là, on revient sur ce chapitre de la polémique. C'est au cœur de la polémique, savoir si Lyme est, oui ou non, une maladie chronique.
Alors, vous faisiez allusion aux recommandations de la HAS, effectivement. Donc, dans ces recommandations, il y a une définition très claire de ce qu'est la maladie de Lyme, avec les symptômes qui sont très spécifiques. Et puis, il y a autre chose qui est plus difficile à définir, qui correspond effectivement à des manifestations chroniques que présentent certains patients. Mais là où on n'est probablement pas d'accord les uns avec les autres, c'est de savoir si ces manifestations chroniques sont en rapport ou non avec soit une maladie de Lyme, soit une autre infection transmise par une piqûre de tique. Et là, il est clair que pour l'instant, il n'y a aucune donnée scientifique, en tout cas, qui permette d'établir un lien de cause à effet entre une piqûre de tique et des manifestations chroniques persistantes chez des gens qui, très souvent, ont plus des tests biologiques qui sont négatifs, donc des recherches de maladie de Lyme qui sont négatives, voire des recherches d'autres maladies transmises par les tiques qui sont négatives aussi. Donc, effectivement, il y a une grosse discussion de savoir si une piqûre de tique, qu'elle transmette maladie de Lyme ou d'autres maladies, pourrait être la cause plutôt avec ces manifestations chroniques. Donc là, on est dans un domaine qui sort presque un petit peu de la médecine scientifique, basée sur les preuves, et ça reste très hypothétique.
Quand vous dites justement que vous n'avez pas forcément admis ou accepté l'intégralité des recommandations de la Haute Autorité de Santé, j'imagine que vous n'êtes pas le seul infectiologue à le faire, comment réagissent justement les autorités sanitaires par rapport à l'opinion de médecins, de scientifiques que vous relayez?
Il faudrait poser la question aux autorités sanitaires, mais effectivement, vous avez raison de dire que je suis pas le seul, puisque l'ensemble des sociétés savantes qui ont participé à ces recommandations-là, que ce soit les infectiologues comme les sociétés de médecine générale, les neurologues, les pédiatres, enfin les rhumatologues, donc l'ensemble des sociétés savantes n'a pas voulu effectivement valider l'ensemble, la totalité de ces recommandations. Alors il y a des choses très intéressantes dans ces recommandations, puisque c'est le fruit d'un travail quand même collaboratif assez important, mais il y a effectivement ce point des syndromes polymorphes persistants après piqûre de tique, sur lesquels justement nous on aimerait bien avoir plus de précision, c'est-à-dire pour faire la médecine on est quand même quelque chose qui peut être associé à une science, donc on aimerait bien comprendre et savoir ce qui se passe. Et là, dans les propositions, il y a des manifestations qui permettraient, disons, d'établir un diagnostic sur des simples données cliniques très très floues, parce que quand on prend les définitions de ces symptômes, on y trouve un peu tout, c'est de la fatigue, des troubles un petit peu de la mémoire, enfin c'est très difficile à définir, donc c'est sur le plan médical très difficile à utiliser en pratique par rapport aux patients. Et ce qui nous embête beaucoup, c'est que dans ces conditions, dans les recommandations, on propose éventuellement, on donne la possibilité de faire des traitements antibiotiques. Et je pense que ça, c'est pas quelque chose de tout à fait acceptable en médecine, puisque les traitements antibiotiques, ce sont des traitements qui vont être efficaces sur les maladies bactériennes. C'est le principe du traitement antibiotique, et qu'on va utiliser uniquement quand on a vraiment une forte hypothèse de maladie bactérienne. Et là, ce n'est pas le cas, et ça peut même amener à faire des excès de traitement, qui sont pas forcément toujours anodins, puisqu'il y a quand même aussi des effets secondaires par rapport à ces traitements antibiotiques. Donc, je pense qu'il faut vraiment beaucoup plus de données. D'ailleurs, ça va faire l'objet d'un certain nombre d'études qui vont être mises en place pour savoir finalement qu'est-ce qui se passe après une piqûre de tique.
Alors, on va tout de suite, professeur Hansmann, poursuivre sur ce volet justement sur le diagnostic, sur la polémique, mais on va prendre un auditeur en ligne, si vous le voulez bien.
Priorité santé sur RFI.
Cet auditeur nous appelle de Guinée, de Conakry précisément, c'est Daouda. Bonjour Daouda.
Bonjour Madame Caroline.
On vous écoute Daouda.
Oh oui, en fait c'est par rapport à la maladie de Lyme.
Oui.
Dont vous avez promis de faire l'émission aujourd'hui. Je voulais dire que cette maladie vraiment elle est sous-diagnostiquée chez nous. Allô.
Oui, je suis là. Il y a des personnes qui viennent dans votre service et qui présentent justement des symptômes tels que nous les avons décrits depuis le début de l'émission.
Oui, exactement. Ici, nous avons des populations qui sont agro-pastorales, qui vivent en brousse et qui font de l'agriculture et de l'élevage. Et il y a les tiques qui vont souvent avec les animaux et il arrive que ces personnes qui sont en contact avec ces animaux et qui sont en brousse soient piquées par ces tiques. Et puis les premiers symptômes arrivent, l'érythème papuleux annulaire peut arriver au début, mais le plus souvent ils négligent en prenant des antalgiques et des antibiotiques sans respecter la durée de traitement. Et le plus souvent, ils viennent pas à l'hôpital. Le premier réflexe, ils viennent voir la médecine traditionnelle. Et puis, la maladie passe à bas bruit et finalement, la maladie évolue. Et ils viennent dans un stade avancé, dans les stades 2 et 3 de la maladie, qui sont des complications neurologiques, à savoir des méningoradiculites avec des paralysies faciales et ainsi que des paraplégies et des paraplégies.
Et Daouda, je voulais vous poser cette question. Dans votre enseignement, oui. Vous, quand vous avez appris la médecine en Guinée ou peut-être dans un autre pays d'Afrique de l'Ouest, on vous a sensibilisé à la maladie de Lyme, aux maladies transmises par les tiques. Ça fait partie de l'enseignement général en infectiologie?
Oui, ça a été enseigné à l'université, oui.
Et vous avez justement diagnostiqué plusieurs de ces cas personnellement?
Oui, j'ai eu des cas... Personnellement, oui, j'ai eu des cas. Et ici, en neurologie, on a des cas de complications aussi qui sont des méningoradiculites et des...
Et vous avez la certitude que c'est lié à une bactérie Borrelia et pas à une autre transmission d'agents pathogènes par une autre tique que celle qui transmet précisément la maladie de Lyme?
Alors, c'est vrai que c'est très difficile dans notre contexte de faire la confirmation. Parce qu'on ne peut pas faire les PCR et les IgM. Le plus souvent, le diagnostic est pathognomonique dans le cas au stade 1 d'érythème papuleux annulaire. Mais on se base beaucoup plus sur la clinique et les antécédents à travers l'interrogatoire aussi.
Merci beaucoup Daouda pour ce témoignage très très intéressant. On vous retrouve professeur Yvan Sman en studio avec nous, responsable des maladies infectieuses au CHRU de Strasbourg, auteur de La maladie de Lyme au-delà de la polémique publiée chez Solar. On entend dans ce témoignage, on parlait de population agro-pastorale, on voit que le contexte de vie, le contexte professionnel, c'est très important au cours de la contamination et ça entre aussi en ligne de compte dans le diagnostic, j'imagine.
Oui, tout à fait. On a beaucoup plus de risques effectivement quand on est exposé aux piqûres de tiques. Donc quand on a une activité on va dire dans nos régions, plutôt dans les forêts, les travailleurs forestiers sont beaucoup plus exposés à ce risque-là, effectivement.
Avec une dimension climatique également.
Alors effectivement, là c'est le témoignage, c'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'on a très peu de données sur ce qui se passe en Afrique où les tiques ne sont pas les mêmes. Mais je pense qu'on connaît très mal, on n'a pas de données qui permettent de savoir si la maladie de Lyme existe et à quel taux elle existe en Afrique.
Effectivement, parce qu'il y a aussi la complexité dans les tests, l'accès justement au diagnostic, etc.
C'est ça, parce que disons, pour arriver à un diagnostic de certitude, c'est en général des tests qui sont relativement sophistiqués, voire pour les formes neurologiques, des ponctions lombaires. Donc c'est probablement pas accessible partout. Maintenant, disons, les formes neurologiques sont peut-être un petit peu plus difficile à diagnostiquer, mais je crois que c'est très intéressant effectivement de voir un petit peu combien elles peuvent être présentes dans d'autres endroits également.
On y reviendra tout à l'heure avec, avec un autre interlocuteur. Justement, je voudrais revenir à cette dimension régionale. Vous travaillez à Strasbourg, le Rhin. On voit justement que cette région, c'est au cœur. On va dire que c'est vraiment le centre, en tout cas pour notre partie de l'Europe, de cette maladie de Lyme, même s'il y a aussi beaucoup de cas en Europe orientale, notamment en Pologne. Et il y a une approche complètement différente. Là, ce sont les patients qui le disent dans la façon d'aborder la maladie. Outre Rhin et de votre côté du Rhin, donc du côté de l'Alsace, de Strasbourg, professeur Ivansmann, pourquoi les médecins allemands ne voient pas la maladie de Lyme du même œil que vous ?
Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec
ce que j'ai lu pour préparer cette émission, en tout cas.
Non, mais je sais bien, hein, je veux dire, voilà. C'est effectivement des choses qui sont souvent avancées. En fait, les médecins allemands traitent la maladie de Lyme comme les médecins français. Il y a des sociétés savantes en Allemagne qui font exactement les mêmes recommandations que les sociétés savantes françaises, en particulier par rapport aux tests biologiques pour faire le diagnostic de maladie de Lyme. Donc, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à une... disons une information qui est pas toujours très juste. Alors c'est vrai qu'en Allemagne, il y a un petit peu plus, disons, il y a moins de régulation sur le plan médical et donc il y a un petit peu plus de médecins qui font de la médecine, on va dire, un petit peu alternative, qui est pas forcément inintéressant, ça peut être complémentaire, en particulier sur des approches pour des patients qui ont des pathologies chroniques. Et la maladie de Lyme a pris une place très importante là-dedans. Mais c'est plus vraiment la médecine standard, traditionnelle, et on voit effectivement beaucoup de médecins qui ont une approche avec des thérapies qui sont assez éloignées de l'antibiothérapie, qui peuvent apporter un bénéfice aux patients. Mais disons, la médecine allemande scientifique qui repose sur les données des publications est totalement identique et d'ailleurs les référentiels européens, américains proposent la même prise en charge, la même façon de faire le diagnostic et les mêmes traitements. Il y a plusieurs recommandations européennes qui ont été mises à disposition sur les dernières années qui sont très consensuelles.
Alors, on parlait tout à l'heure du contexte climatique, du contexte géographique, et on comprend aussi en lisant votre livre que cette maladie, elle interroge sur notre rapport à la nature. Nous, aujourd'hui, largement urbanisés, on parle bien sûr de nous en Europe, nos auditeurs, pour eux, c'est vraiment différent, avec encore beaucoup de personnes installées en milieu rural, mais en tout cas, une façon peut-être aussi d'aborder de manière assez irrationnelle ce rapport à la nature qui n'est plus une amie, mais la nature qui est de plus en plus une inconnue, voire une ennemie dangereuse. Le retour un peu à cette forêt, la dimension effrayante de la forêt, de la nature que l'on n'arrive plus à connaître jusqu'au bout.
Oui, peut-être. Alors, c'est peut-être un domaine que je maîtrise un petit peu moins, mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même que dans notre société, on aime bien tout maîtriser. Et que finalement, la forêt, effectivement, représente une certaine part d'inconnu. Alors, ce qui est peut-être également intéressant, ça permet une fuite pour certains, mais c'est vrai que pour d'autres, ça peut représenter une certaine forme de danger qui peut s'exprimer à travers les risques qu'on peut rencontrer, en particulier autour des piqûres de tiques.
Tout à l'heure, on a parlé avec le témoignage de Monsieur Schweitzer de ces cas diagnostiqués sans du tout être trivial, je dirais des diagnostics plus simples, plus faciles. Maintenant, si vous le voulez bien, si on aborde des cas de diagnostic complexe avec d'autres symptômes, on va dire moins évidents qui sont énoncés, on peut pas nier le retentissement psychique quand vous avez en consultation quelqu'un qui décrit ses symptômes, quelqu'un qui décrit aussi sa fatigue de ne pas avoir de réponse, cette souffrance. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes, vous, le médecin, vous avez des tests qui sont négatifs et malgré tout, cette personne cherche une réponse. Qu'est-ce que vous lui dites ?
Mais disons, si les tests sont négatifs, c'est vrai qu'on explique d'abord que probablement, le diagnostic, ce n'est pas une maladie de Lyme. Ce qui n'empêche que les gens peuvent être en souffrance, peuvent avoir une fatigue, des douleurs. On remet pas en cause ce genre de symptômes. Ce qu'on remet en cause, c'est le fait que ce soit lié à la maladie de Lyme. Donc, du coup, on reprend une casquette de médecin généraliste ou interniste et on essaye de faire une démarche et on essaye de comprendre ce qui se passe, s'il y a d'autres maladies ou s'il y a d'autres faits qui peuvent expliquer ce mal-être et cette façon, disons, de se sentir. Alors, ce qu'on a quand même constaté, c'est que, justement, autour de cette polémique, le fait de donner des informations qui sont souvent contradictoires rend les choses un peu confuses et les patients ont beaucoup de mal à savoir, finalement, à qui on peut encore faire confiance.
Alors justement, information contradictoire de la part de qui ?
Ben, c'est il y a plusieurs, on va dire, courants, mais disons, il y a une position de la médecine qui est une position assez traditionnelle, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre, on essaie d'identifier les causes des maladies. Et puis il y a une position qui est moins traditionnelle, qui est peut-être plus une approche, effectivement, comme on parlait un petit peu de la médecine alternative tout à l'heure, qui repose un petit peu là-dessus, où le but n'est pas forcément de comprendre ce qui se passe, mais c'est d'essayer d'apporter un bénéfice. Et là, il y a une sorte de rencontre un petit peu curieuse autour de la maladie de Lyme, où certains médecins qui ont une approche à la fois alternative et à la fois plus scientifique, c'est-à-dire qu'ils essayent d'imposer en quelque sorte ce diagnostic de maladie de Lyme à des gens qui ne l'ont peut-être pas. Et ça rend les choses très difficiles, ça rend les choses confuses, et on a quand même l'impression que c'est le fait de convaincre un patient qu'il a une maladie, que ça peut essayer aussi aller vers générer une certaine angoisse ou une certaine anxiété qui va même contribuer à leur mal-être. Et donc on essaye, quand on a des patients, de comprendre un petit peu tout ça en leur expliquant ce qu'on sait pas, parce que c'est vrai qu'il y a des choses, on peut pas répondre à toutes les questions en médecine, parfois il y a des choses qui restent incertaines, et on essaye de comprendre avec eux. Et le fait de comprendre, à mon avis, est la première démarche qui leur permet déjà d'aller dans le bon sens. Donc plus ces informations sont confuses et moins ils comprennent, et souvent moins ils vont bien.
On va poursuivre le débat, professeur Yves Lanzmann, mais on va retrouver tout de suite en ligne docteur Emmanuel Nakuneyandoko. Bonjour docteur.
Bonjour Caroline.
Vous êtes directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Bangui en République centrafricaine. En ce moment, vous êtes à Paris, hein, à l'occasion des 130 ans de l'Institut Pasteur. Docteur Nakuneyandoko, les infections transmises par les tiques, c'est quelque chose de fréquent en République centrafricaine?
Oui, bien sûr. Maladies transmises par les tiques, en particulier les maladies virales, Le virus de Crimée-Congo, qui est un virus hémorragique, est souvent transmis par des tiques, et quand nous faisons des enquêtes, nous avons un certain taux quand même important de prévalence. Tout le problème, c'est arriver vraiment à avoir des patients que les cliniciens suspectent des infections virales, envoient des prélèvements au laboratoire pour confirmation. Même si on n'a pas de cas confirmés biologiquement, on a quand même isolé les virus chez des tiques prélevés sur des bovins, des caprins. Donc il y a quand même un nombre important de virus transmis par les tiques en République centrafricaine.
Alors on l'a compris, la maladie de Lyme, c'est une maladie grave. Crimée-Congo, très grave, on va le dire aussi. Est-ce que certaines populations sont davantage touchées que d'autres, Emmanuel Nakuneyandoko? Tout à l'heure, on parlait du contexte professionnel, du contexte aussi d'habitat. Est-ce qu'il y a des régions ou des milieux qui sont plus concernés?
Absolument, nous avons, comme je vous le disais tout à l'heure, en particulier les éleveurs et ceux qui travaillent dans les services des abattoirs. Quand on voit le taux de prévalence chez ces groupes de personnes, c'est plus élevé que dans la population générale.
Alors, quelle prise en charge proposez-vous quand vous arrivez éventuellement à un diagnostic de Lyme? Et déjà, docteur Emmanuel Nakuneyandoko, est-ce que vous diagnostiquez des cas de maladie de Lyme en RCA?
Le diagnostic, il reste purement clinique, c'est des diagnostics de prévention, parce que au jour d'aujourd'hui, les tests qui sont utilisés sont des tests sérologiques, ne nous permettent pas confirmer à 100% qu'il s'agit d'une infection par la maladie de Lyme. Donc dans ce contexte, parce que on héberge presque tous les centres de référence, et pour nous, quand des techniques ne sont pas encore homologuées, c'est vrai que c'est difficile de rendre un résultat fiable, dire à 100% que c'est une infection par la maladie de Lyme, surtout si on n'a pas de notion de contact, c'est-à-dire que de facteurs de risque. C'est ce qui manque très souvent. Les patients, ils se souviennent pas avoir été par un tique. C'est difficile, hein. C'est vraiment difficile.
Oui, pour vous à l'Institut Pasteur. Alors, je ne sais pas si ça vous concerne directement, justement, puisque vous êtes plus dans la phase de test et de recherche, docteur Emmanuel Nakuneyandoko. Est-ce que vous savez quelle prise en charge est proposée aux patients lorsqu'il y a justement diagnostic?
Au niveau de la prise en charge, il faut dire que c'est quand même une maladie très peu connue par les cliniciens et la prise en charge, elle reste simple. Il n'y a vraiment pas une prise en charge spécifique. C'est vrai que l'utilisation anarchique des antibiotiques, d'emblée, les gens ils vont mettre les patients sous traitement, sous antibiothérapie, mais de manière spécifique, je n'ai pas trop d'éléments pour vous dire qu'est-ce qui est utilisé quand il y a en présence des suspicions d'infection par la maladie de Lyme.
On peut dire en tout cas que dans une région comme à Bangui, on est bien davantage préoccupé par la fièvre Crimée-Congo que par la maladie de Lyme.
Absolument, absolument. Au fait, c'est vraiment lié au plateau technique diagnostique, hein, parce que vous savez que en République centrafricaine, l'Institut Pasteur occupe une place stratégique dans le système de santé, et c'est nous qui proposons le plateau technique diagnostique aux cliniciens, et quand il y a des suspicions, ils nous envoient. Et parfois, quand ils nous envoient et que nous n'avons pas malheureusement, les tests en place, le diagnostic, il reste purement clinique.
Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications, docteur Emmanuel Nakune-Yandoko. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Bangui, en République centrafricaine.
RFI à Bangui. 99.8 FM.
Donc, professeur Ivansman, on arrive à la dernière partie de cette émission. À vous lire, on a l'impression que vous êtes parfois choqué et même incrédule face à la vigueur de la polémique. Vous ne niez pas justement la situation parfois complexe de certains patients. Est-ce que vous comprenez, j'aurais envie de vous dire, Lyme, pourquoi tant de haine ?
C'est vrai que c'est peut-être un peu difficile à comprendre, en particulier pour nous. Disons, on travaille depuis quelques années, depuis assez longtemps sur la maladie de Lyme. Je pense que la plupart des médecins sont quand même assez conscients du fait qu'on est là pour soigner les patients, donc pour leur rendre service. Et c'est vrai qu'on a parfois un petit peu de mal à comprendre pourquoi certains patients, mais peut-être un petit peu sous l'influence effectivement de cette polémique, donc des informations qui leur sont mises à disposition, pourquoi certains patients sont en colère contre nous, parce que je crois qu'ils se trompent parfois un petit peu de colère. Je pense qu'ils sont plus en colère contre leur souffrance, contre leur maladie. Alors c'est vrai que la médecine de temps à autre ne répond pas toujours à leurs besoins.
Oui, mais les patients, ils ont aussi l'impression parfois d'être un peu traités de malades imaginaires. On a vu la même chose un peu avec la fibromyalgie et des personnes qui souffrent objectivement et à qui on dit, mais en fait, vous ne souffrez pas vraiment, hein, vous êtes en dépression. Et ça, c'est très dur à entendre.
Alors effectivement, il y a beaucoup de patients qui reprochent ça un petit peu à la médecine. Après, ce sont aussi des situations individuelles. Il faut voir au cas par cas, et je reconnais qu'il m'est arrivé aussi d'avoir des patients qui ont eu des expériences assez désagréables avec le corps médical, qui n'a pas fait de diagnostic. Je veux dire, la médecine est représentée par des dizaines de milliers de médecins. Je veux dire, il peut y avoir effectivement des erreurs diagnostiques ou des sous-diagnostics ou des mauvaises interprétations. Ceci dit, je pense que le but de la médecine, c'est quand même d'arriver un petit peu à proposer quelque chose. Et c'est vrai que probablement, on a peut-être des choses à apprendre en médecine pour être un petit peu plus empathique, comme on dit, envers les patients. Mais en même temps, dans la médecine traditionnelle, on passe beaucoup par l'étape diagnostique. Et quand cette étape n'est pas certaine ou quand elle n'est pas faite, on a une difficulté, je dis on au sens nous les médecins, on a parfois une difficulté à proposer une prise en charge pour les patients. Et donc là, il y a peut-être quelque chose qui mériterait une réflexion. Et c'est vrai que l'exemple de la fibromyalgie, je pense qu'il a pas mal évolué ces dernières années. On a eu l'occasion d'échanger avec des experts de la fibromyalgie, peut nous apporter des informations intéressantes sur la prise en charge de ces patients-là.
C'est totalement différent, mais il y a une autre maladie pour laquelle les femmes ont eu aussi beaucoup de réponses négatives en disant vous êtes un peu des malades imaginaires, c'était l'endométriose. Mmh. Pendant longtemps, on disait vous souffrez, mais bon, écoutez, prenez un cachet, ça ira mieux, madame. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que non seulement c'est une véritable maladie, mais c'est une maladie très grave, avec des conséquences très lourdes pour la vie, pour la santé, pour la vie personnelle. Est-ce qu'on aura demain un même éclairage, bien sûr, on peut pas se projeter, c'est très compliqué. Mais est-ce qu'il est possible qu'on ait un même éclairage sur la maladie de Lyme ?
Mais disons, ce qu'on essaye surtout, c'est d'arriver à améliorer le diagnostic, à arriver à comprendre ce qui se passe. Donc, il y a quand même un certain nombre de recherches qui sont faites pour essayer de voir, par exemple, si les maladies qui sont transmises par l'éthique pourraient expliquer un certain nombre de symptômes. Pour l'instant, les données ne vont pas en faveur de cette hypothèse-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu identifier chez ces personnes-là des causes précises, en particulier infectieuses et en particulier transmises par l'éthique. Et c'est vrai que la médecine, on passe vraiment par ce phénomène de comprendre pour arriver à proposer un traitement. Après, comme dit, il y a d'autres approches. On a déjà évoqué la médecine alternative, qui est peut-être pas tout à fait dans cette optique-là et qui peut amener des choses complémentaires. Et je pense que peut-être qu'il y a une prise en charge qui peut être à la fois basée sur les traitements de la cause, mais également les traitements de l'ensemble des symptômes, que ça passe par des médicaments ou par d'autres techniques. On voit apparaître différentes techniques entre la méditation, la sophrologie, le yoga. L'activité physique qui semble très très importante par exemple, et donc là on touche à un domaine qui sort quasiment de la médecine, c'est presque un domaine de santé, ça c'est clair, et de d'intégration finalement dans notre société, et ça nous amène assez loin dans la réflexion, et je pense que là il y a probablement des choses intéressantes à aller récolter comme information.
Il y a une information justement qu'on n'a pas donnée, c'est en termes de prévention, est-ce qu'on peut se protéger d'éthique? Il y en a partout, il y en a de plus en plus. Pour le paludisme, on essaye d'éradiquer les moustiques, c'est très compliqué. Est-ce que pour l'éthique, on a une chance d'aller dans cette voie-là, d'essayer de s'en débarrasser, ou il va vraiment falloir s'habituer à vivre avec elle?
Alors ça paraît très très difficile, on sait que l'éthique existe depuis probablement très très longtemps, je ne sais pas si, probablement avant l'homme même. Donc l'idée d'éradiquer l'éthique paraît très peu probable, on va certainement pas y arriver. Par contre, on peut essayer de limiter la prolifération d'éthiques. C'est des choses qui peuvent être envisagées. On sait que l'éthique prolifère surtout quand il y a une prolifération également de leur hôte, donc des mammifères en particulier. Donc il y a effectivement des réflexions pour savoir si en limitant un petit peu la prolifération de certains mammifères, ça peut contribuer. C'est un domaine que je maîtrise pas complètement, mais il y a des discussions là-dessus. Et puis surtout, on met l'accent sur la prévention personnel, individuel de chaque personne quand on va se promener en forêt, qu'on ait un certain nombre de réflexes, et ça c'est vraiment très important, en particulier le fait de s'examiner par exemple quand on rentre de promenade, de s'examiner partout, puisque l'éthique...
Examiner les enfants avant de prendre la douche,
voilà,
etc.
Et l'éthique, elles ont des petites pattes, donc elles peuvent remonter le long du corps, et dès qu'on a une tique, l'idée c'est de la retirer le plus vite possible, et ensuite de continuer à surveiller un petit peu l'endroit où elle a été plantée dans le corps, pour voir s'il n'y a pas cet érythème migrant qui apparaît, et là il faut aller voir un médecin.
Il nous reste quelques secondes pour conclure, professeur Evansman, dans le titre de votre livre, en finir avec la polémique, est-ce que votre livre a contribué à plus de sérénité ou à réactiver la polémique?
Alors, le titre c'est au-delà de la polémique.
Oui, mais c'est aussi en finir. Hein.
Donc non, c'est au-delà, c'est-à-dire que je veux pas alimenter cette polémique par le livre. C'est ça un petit peu qui a l'idée, c'est-à-dire que je veux pas dire nous avons raison, les autres ont tort.
Il y a beaucoup d'éléments scientifiques dedans.
Voilà.
C'est vraiment très très informé.
Voilà, c'est ça. C'est mettre à disposition l'état des connaissances pour que chacun puisse se faire un petit peu son opinion. C'est ça un petit peu qu'il y a derrière.
Avec quand même malgré tout beaucoup d'écoute justement et de reconnaissance de la réalité de tout ce qu'il y a d'humain dans une souffrance entraînée par une maladie.
Bien sûr, c'est très important ça, en médecine en général et en particulier sur la maladie de Lyme.
Merci beaucoup professeur Evansman d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes responsable des maladies infectieuses et tropicales au CHRU de Strasbourg. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est Toussaint Maquet, Ophélie Lassen, Didier Bleu. On se retrouve lundi.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les brillants entrepreneurs, profitez d'une assurance épargne et réalisez vos projets en toute assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.